VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, découverte d'une cache d'armes de guerre et de munitions à Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Et ce, grâce à la population locale qui a informé la gendarmerie de la ville de mouvements suspects au niveau d'un bâtiment inhabité. Après une semaine d'enquête, les autorités ont trouvé un véritable arsenal de guerre. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus.
C'est grâce au patriotisme d'un individu convaincu qui savait que sans la contribution des populations, il serait impossible pour les forces armées du Mali d'arriver à bout de leur mission. C'est ainsi qu'il informa le mardi 30 août 2016 la gendarmerie de Tombouctou d'activités peu anormales au niveau d'une maison inhabitée. Les OPJ se sont mis à l'œuvre. À Badjindé, plein centre-ville, poumon de l'économie de Tombouctou, que mystérieusement, la gendarmerie nationale a pu mettre la main sur ces dépôts composés d'armes légères, de grenades offensives et défensives, des PA, des lance-roquettes, des obus de mortier de 60 à 80 mm, ainsi qu'une importante quantité de munitions de guerre. L'auteur de ce forfait, selon les enquêteurs, est en fuite. Quant à l'opération, elle suit son cours normal. Rappelons que la même unité de la gendarmerie, basée à Tombouctou, sous le commandement du chef d'escadron Siaka Diakité, un certain Oumar Ibrahim Aïdra, ex-militant de Mujao, a été arrêté à Tombouctou. Ce dernier a reconnu avoir collaboré avec le Mujao en 2012. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, les travailleurs du secteur des médias publics sont en colère et ils ont exprimé leur ras-de-bol mercredi par un mouvement de grève inédit dans le pays à l'appel du Syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture. Des centaines de journalistes ont arrêté le travail pendant un jour. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
En raison de ce mouvement, notre programme habituel connaît des perturbations. Nous nous en excusons. Le programme normal reprendra demain, jeudi 8 septembre 2016, à 5h du matin. D'avance, merci.
Voici le message servi en boucle aux éditeurs de la radio publique quand pour la télévision, c'est un message déroulant qui annonçait la perturbation des programmes. Durant 24 heures, les bureaux de la radiodiffusion télévision du Burkina, ceux de Sidoya, le quotidien d'État, se sont vidés de leurs occupants venus à la Bourse du Travail à l'appel du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture cinématique, dénoncer l'inaction du gouvernement sur leurs revendications minimales.
Pourquoi nous sommes là ce matin, camarades ? Oui, ça ne va pas, camarade.
Le secrétaire général du Sinatic, Séléki Dramé.
Nous tenons à féliciter toutes les travailleuses, tous les travailleurs des médias publics qui ont accepté de se sacrifier pour mener ces actions-là. En vue d'interpeller encore une fois les autorités gouvernementales pour qu'elles résolvent ces problèmes cruciaux, à savoir les conditions de rémunération salariale et indemnitaire qui sont en deçà de ce qui peut permettre à un homme de médias d'être à l'abri du besoin. La reconstruction de carrière, les frais de production et autres avantages dont bénéficiaient les travailleurs des médias publics et qui ont été suspendus. Et enfin, l'arrêt des intimidations et autres pressions sont souvent monnaie courante dans les médias publics.
Ce mouvement de journalistes a connu une participation inédite de plusieurs centaines d'agents des médias publics venus crier leur ras-le-bol.
C'est pour dire non à l'immixtion dans les médias d'État. Non à la non-examination de notre plateforme.
La plateforme elle-même a été élaborée en 2010 et nous sommes aujourd'hui en 2016. Donc nous pensons que nos préoccupations n'ont que trop duré. Nous sommes prêts à aller jusqu'où il faut.
Les journalistes, unis comme rarement ils l'ont été, ont brandi à l'unisson des cartons rouges à l'endroit du ministre Rémi Dandjinou en charge de la communication. Un ministre mis en garde à demi-mot à travers la déclaration du président de l'unité d'action syndicale, Bassonnement Bazier, venu en renfort.
Si au contraire le point qui nous est fait, qu'un travailleur était menacé, que sa vie est menacée, ou même sa quiétude psychologique est menacée, nous allons réagir.
Le Sinatic se bat depuis quelques mois pour faire appliquer un décret gouvernemental pris en 2015 sous la transition en faveur de journalistes de médias publics qui travaillent dans des conditions précaires. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Gabon, intensification du bras de fer entre le président sortant Ali Bongo Ondimba et l'opposant Jean Ping, qui conteste la réélection du chef de l'État à la récente présidentielle. Le ministre gabonais des Affaires étrangères Emmanuel Issozen Gondé a annoncé aujourd'hui le report sine die de la mission de l'Union africaine dans la crise qui secoue son pays. L'Union africaine avait déclaré lundi qu'elle était prête à envoyer une délégation de chefs d'État africains à Libreville pour essayer de désamorcer cette crise et éviter que le Gabon, jusqu'à présent l'un des pays les plus stables d'une région troublée, ne sombre lui aussi dans la tourmente. Selon le ministre Emmanuel Issozen Gondé, la mission de l'Union africaine aurait été reportée pour des raisons de calendrier. Plus de détails sur la situation au Gabon avec Nanit Talani.
Jean Ping n'a toujours pas déposé de recours contre la réélection du président sortant à la clôture du délai légal de contestation devant la Cour constitutionnelle. Par contre, hier, à la veille de la date butoir de ce jeudi 16h heure locale, 15h temps universel, le président Ali Bongo a déjà confirmé qu'il allait lui-même saisir la Cour sur certains résultats obtenus par M. Ping. Le camp Ping continue de réclamer un recomptage des voix avant tout recours devant la Cour constitutionnelle. Dans l'attente du dénouement de la crise, la vie tourne au ralenti dans le pays, même si quelques titres de la presse, d'opposition comme proches du pouvoir, ont reparu ce jeudi après plus d'une semaine de paralysie.
Sommet du G20 à Hangzhou en Chine. Quel projet pour l'Afrique à cette réunion qui s'est terminée en début de semaine? Les pays les plus industrialisés vont-ils réussir dans les sillons tracés par la Chine en Afrique? Les analystes sont sceptiques, évoquant l'absence d'un plan clair, Eddie Sango.
Au sommet de Hangzhou, en Chine, le G20 a approuvé un programme de développement durable pour l'Afrique, mais sa mise en œuvre reste une autre histoire, estime Barry Sopman, politologue à l'Université des sciences et de la technologie de Hong Kong. Sopman estime que bien que l'Afrique soit riche en ressources naturelles et présente de nombreuses opportunités, les intérêts et les niveaux de compétition divergents empêchent les membres du G20 d'œuvrer ensemble pour faire éclore les potentiels de croissance du continent. Les modèles d'affaires à faible marge bénéficiaire en Afrique n'est pas pour toutes les entreprises non plus, ajoutent les politologues. Par exemple, les fabricants chinois des produits de qualité moyenne peuvent se contenter d'une marge de profit mince de 5 à 10%. Or, les entreprises de nombreux pays occidentaux réalisent souvent jusqu'à 30% de la marge bénéficiaire, affirme Sopman. Les analystes souhaitent par exemple que les G20 mettent fin à la subvention des efforts d'exploitation des nouvelles réserves de charbon, de pétrole et de gaz décidées en 2009 à Pittsburgh. Pour eux, le G20 est à l'heure de vérité face à l'Afrique, comme l'a dit l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo.
Conflit en Syrie maintenant, possibilité d'accord entre Washington et Moscou sur la guerre qui a déjà fait 290 000 morts dans le pays et poussé des millions de Syriens à fuir leur foyer. Le secrétaire d'État américain John Kerry devrait, selon le ministère russe des Affaires étrangères, rencontrer aujourd'hui et demain à Genève son homologue russe Sergei Lavrov pour discuter de la question, Eddie Sango.
Le département d'État américain n'a pas confirmé que la rencontre s'est tenue aujourd'hui, mais a préféré parler d'imminent pour parler entre les deux personnalités. Ce qui est sûr, c'est que Sergei Lavrov et John Kerry ont eu hier une conversation téléphonique autour des détails de l'accord sur une coopération russo-américaine. L'accord concernera la lutte contre les groupes terroristes en Syrie, l'extension de l'aide humanitaire et le lancement du processus politique, selon le ministère russe des Affaires étrangères. Côté américain, et selon les critiques, l'administration Obama semble vouloir négocier en position de faiblesse avec la Russie, mais le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, a dans une interview sur BBC précisé aujourd'hui que les États-Unis étaient prêts à collaborer avec la Russie pour mettre un terme au conflit syrien, mais les conditionnerait à une véritable cessation des hostilités préalables. Moscou n'a pas, selon M. Carter, aidé Washington à se rapprocher d'une solution politique qui verrait les présidents syriens, Bachar al-Assad, démissionner et un nouveau gouvernement incluant l'opposition modérée lui succéder.
Pour terminer, conflit en Libye, les forces pro-gouvernementales libyennes, appuyées depuis début août par des frappes aériennes américaines, sont en passe de chasser les combattants de l'État islamique de leur dernier repère dans la ville de Sirte. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.